Coucou la MIF, micro promo pour vous dire que je repars en tournée de blagues. Je suis en train d'écrire le nouveau spectacle. Je le jouerai en rodage de janvier à mars à Bruxelles, tous les jeudis au Petit Kings. Ensuite, tournée de rodage en France, Marseille, Grenoble, Aix-en-Provence, Reims, Chambéry, La Rochelle et plein d'autres. Puis direction Paris d'octobre à décembre, tous les mercredis et jeudis au Zèbre de Belleville. C'est une salle trop trop belle où il y a une tyrolienne pour arriver sur scène. Est-ce que c'est pour ça que j'ai voulu jouer là-bas ? Vous n'avez aucune preuve. Donc venez, franchement ça va être marrant. Toutes les dates sont sur mon site fannyruet.com. Il y a aussi les liens pour les tickets. Donc voilà, j'ai trop hâte. Des bisous.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va. Vous avez remarqué que quand vous prenez le métro, la barre au milieu, elle est un peu sale.
Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
Si j'ai une ligne de conduite dans ce que je fais, c'est ça. C'est je veux pas être connu ou tout ce que tu veux, je veux vraiment être fort. Tu vois, dans le sens où je veux me dire, ok, dans 6 mois, je serai meilleur qu'aujourd'hui. Et je veux que tout ce qui se passe et tout ce que ça engendre soit juste la conséquence du fait que c'était bien ce que j'ai proposé. Et ma plus grosse angoisse là pendant longtemps, et même toujours, hein, c'était de me dire que je sois connu entre guillemets. Et qu'en fait les gens viennent et se disent, il est juste connu quoi. Et il est plus connu que ce qu'il est fort.
Aujourd'hui, dans ce podcast, je reçois l'humoriste Paul Mirabel, que vous connaissez probablement puisque sa carrière a explosé il y a 2 ans grâce à son sketch « Je me suis fait racketter » qu'il a joué à Montreux et qui a fait 20 millions de vues rien que sur YouTube. Depuis, Paul a écrit son premier spectacle « Zèbre » qui est actuellement en tournée partout en France, en Belgique et en Suisse. Il a commencé à faire des chroniques sur France Inter, il a animé son propre gala à Montreux, tout ça alors qu'il ne fait du stand-up que depuis 4 ans, dont 2 de Covid. Donc forcément, une ascension pareille, j'avais plein de questions à lui poser. Et vu qu'on jouait ensemble au Zénith de Toulouse il y a quelques semaines, on s'est pris 1 heure dans une loge pour discuter de pas mal de trucs, des liens entre rap et stand-up, de comment il a progressé en 4 ans, du rythme de travail de zinzin qui s'était imposé, de la fameuse question « est-ce qu'on doit défendre quelque chose sur scène ou est-ce qu'on peut juste vouloir faire rire purement et simplement ?» des peurs qui viennent avec la popularité, comment savoir si on est vraiment fort ou si on est juste connu, du personnage qu'on se crée sur scène et dont on peut avoir du mal à se sortir, et de comment il a validé son mémoire de fin d'études en faisant des blagues. J'espère que ça vous plaira.
Comment ça va ?
Ça a commencé ?
Ouais.
Ça va ? Et toi ?
Ça va. T'es pas trop épuisé là de la tournée d'avoir 3 à 4 dates par semaine en province?
Un peu de fatigue, je t'avoue, mais c'est de la bonne fatigue. Et je suis en train de découvrir qu'il existe de la fatigue mentale, mais ça va, ça se gère, on va pas se plaindre.
Ah ouais, tu t'avais pas ça avant?
Je pense que Non, je l'avais pas trop. Et là, depuis quelques temps, parfois j'ai trop de choses dans la tête et je me dis, tiens, là j'ai peut-être un peu trop de choses dans la tête.
Et du coup, tu fais quoi ?
Du coup, je fais quoi ? J'essaie de relativiser, de me dire qu'en vrai, ça arrive à tout le monde, que ça va, que c'est gérable. Et après, j'aime bien essayer de faire du sport ou je fais des trucs très bêtes et méchants pour penser à rien, genre je joue à la PlayStation ou je vais au sport, ouais, du coup.
Ok. T'écoutes beaucoup de musique ?
Oui.
T'écoutes beaucoup de rap ?
Ouais, que ça.
Que du rap ?
Quasiment, ouais. Genre, j'aime tous les styles de musique, mais j'écoute que du rap.
Ok. Pourquoi tu penses qu'il y a autant de... J'ai l'impression qu'il y a un lien particulier entre le stand-up et le rap.
Ouais. Je pense que c'est la même chose sur plein d'aspects. Mmh. Bah, t'as un sens du rythme, t'as un sens de la punchline, t'as le texte qui est très important. Et le stand-up, je sais pas comment tu le vois toi, mais c'est vraiment une musique. Tu mets du temps à trouver ton flow. Et tu vois, par exemple, il y a des albums où je m'aurais écouté quelques albums récemment et où tu dis que de la première chanson à la dernière chanson, chaque ligne est utilisée de manière... comment je veux dire ça ? Chaque ligne est totalement maîtrisée et il n'y a rien qui est anecdotique. Mmh. Et tu vois, j'essaie de mettre un peu cette contrainte dans le spectacle. Je sais que, en fait, tout ce que je dis, on pourrait avoir l'impression qu'il y a de l'impro, que je trouve des trucs sur le moment, mais en fait, j'essaie de me dire que c'est ciselé. Et ça, c'est plein de trucs que je me suis mis comme contrainte en écoutant du rap.
Mais il y a quand même un truc qui est fondamentalement différent, c'est dans le rap, il y a vraiment une culture de la win, de « ah, je vous écrase tous, c'est moi le meilleur », alors que le stand-up, c'est vraiment l'inverse. C'est genre « ah, je suis un loser, regardez ma vie, haha
». Ouais, mais je te dirais que c'est peut-être un peu rebattu depuis quelques temps dans le rap, dans le sens où, puisqu'il y a eu des gens qui étaient beaucoup sur ça avant, il y en a qui se sont dit « mais en fait, ça peut ne pas être que ça ». Et donc moi, je pense que j'ai été autant influencé par « c'est la culture de la win » que « c'est la culture de la lose ». Et donc, selon les ambiances, tu vois, avant le spectacle, je me mets que des sons culture de la win, et je vais vendre du shit et conduire des grosses voitures. Et quand je suis tout seul dans mon lit chez moi, je me mets que des chansons et pourquoi ma meuf m'a quitté alors que j'ai pas de meuf, et tu vois, plein de trucs comme ça. Mm. Et en stand-up, ouais, mais je trouve qu'il y en a aussi qui ont... c'est vrai que c'est plus dur de faire rire peut-être quand tu gagnes, mais il y a quand même, tu vois, il y a quand même des gens qui ont des clowns un peu qui gagnent. Il y a beaucoup plus de clowns qui perdent.
Genre Ferrari qui ont un côté peut-être. Je vous insulte, je vous rabaisse.
Ouais, je suis stylé, quoi, en vrai. Même si au fond, c'est pas ça que ça raconte, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de similarités, ouais. Même dans le. En vrai, tu vois, tu prends un mec qui veut commencer le rap et un mec qui veut commencer le stand-up. Je pense qu'au début, c'est trouver ta façon de dire les choses, donc ton flow. Et après, avoir le meilleur texte possible. Donc nous, ce qui fait tilter, c'est le rire. Mais pour eux, c'est la bonne punchline. Donc moi, je sais que ça m'a énormément influencé.
Si tu pouvais, à genre talent égal dans les deux, tu fais du rap ?
Ouais, complètement.
Ouais,
je pense. Ouais. Parce qu'il y a un truc, je sais pas si t'as cette frustration aussi, mais sur scène, et j'arrive pas totalement à... En vrai de vrai, si je vais au bout de ma démarche, genre je cours partout et je saute dans la foule, quoi. Ouais. Ce que tu peux faire quand tu fais du rap, mais ce que tu peux pas faire en stand-up. Donc je suis trop content d'être sur scène, mais j'ai quand même genre 5% de frustration. Je me dis putain, pourquoi je peux pas crier super fort et me mettre torse nu et sauter dans les gens là.
Mais je pense que les humoristes sont des rockstars qui s'assument pas. Parce qu'en vrai, on aimerait trop. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, mais ouais, faire des trucs hyper... hyper un peu sauvage comme ça, un peu à crier partout et tout, alors qu'en vrai c'est tellement dur.
Bah, j'ai l'impression qu'il y a plus de contraintes de forme dans ce qu'on fait nous que dans le rap, tu vois, même si j'ai un pote qui fait de la musique qui me disait, moi quand je fais mon concert on dirait pas, mais en fait tous mes placements ils sont millimétrés. Je sais qu'à telle chanson je dois être sous cette lumière et tout, mais je trouve quand même que nous, c'est quand même, t'as beaucoup plus de contraintes de forme, ouais. Tu peux, à mon avis, un bon numéro de stand-up, c'est quand même très préparé et très formel. Alors que sur scène, en rap, je pense que t'as quand même plus de liberté, qu'on le veuille ou non.
T'arrives à, enfin, tu penses qu'il te faudrait quoi pour que tu puisses être plus libéré sur scène? Genre, moi, un truc que je trouve fou, c'est que, par exemple, j'ose pas crier. C'est très rare. J'ose pas crier parce que je trouve que crier, c'est prendre tellement de place.
Sur scène?
Ouais. Ou même dans la vie. Enfin, dans la vie, j'ai moins de mal à le faire parce que des fois, ça me fait juste rire de le faire avec mes potes ou quoi. Mais sinon, ouais, sur scène, c'est prendre une place.
Moi, j'aurais tendance à dire du temps. Parce que je vois les progrès que j'ai fait, entre guillemets, même si c'est des progrès à petite échelle. Mais je vois les progrès que j'ai fait en quelques années sur scène de ce que je me sentais incapable de faire et qu'en fait, je fais. Et je sais que ce qu'il y a eu entre temps, c'est juste de la répétition et du temps. Et me dire qu'en fait, c'est possible. Et après, je pense qu'aussi, il ne faut pas non plus. Comment dire, tu vois, il y a des trucs que je ne fais pas dans la vie. Et qui, en fait, seraient totalement acceptables sur scène. Justement parce que je ne le fais pas dans la vie. Et que sur scène, je pense que tu peux tout faire.
Quoi, par exemple ?
Bah, crier, par exemple. Tu vois, moi aussi, je me dis, j'aimerais bien parfois. Avoir une palette de jeux tellement large que je peux faire rire avec un silence. Et je peux faire rire en criant. Mais c'est encore un step que j'ai pas passé, tu vois. Mais j'aime bien l'idée de se dire que, en fait, sur scène, c'est ton espace, donc tu peux tout dire et tout faire. En fait, c'est accepter parce que on sait que c'est pas la vie et qu'il y a un rideau et que à la fin tu te dis merci de m'avoir écouté et tu t'en vas quoi. Après, tu peux pas non plus.
On revient sur les néo-nazis.
Oui, voilà. Si tu pars de ce principe-là, tu peux tout dire et tout faire et en fait, tu peux juste dire bah oui, je suis sur scène, j'ai le droit. Mais je trouve que en tout cas, tu peut-être plus au niveau du jeu, tu peux te permettre de faire des trucs qui seraient un peu étranges dans la vie.
T'as progressé sur quoi, toi, depuis que t'en fais ? Ça fait 3-4 ans ?
J'ai commencé début 2018.
Ouais, donc là, 4 ans, 4 ans. 2 de Covid, quoi.
Ouais, tellement de trucs. Au début, mes premières scènes, c'était genre... je peux pas te raconter le niveau de stress que c'était, quoi. C'est genre, au moment où j'envoyais des messages sur Facebook, on me disait « Bonjour, tu peux venir faire des blagues tel jour, telle heure », j'avais déjà le stress que t'as avant de monter sur scène, mais dans ma chambre. Et au début, genre, monter sur scène... Le premier défi, c'était de me dire... enfin, il y avait deux gros trucs. C'était apprendre un texte par cœur que j'oublie pas et parler devant des gens que je connais pas. C'était littéralement mes deux phobies. Et donc, il y a eu ça qui a pris, je pense, facile un an à me dire, OK, c'est bon. Maintenant, l'exercice de monter sur scène et de parler devant des gens, je maîtrise... enfin, j'ai moins peur qu'avant. Et après, là, sur les deux dernières années, je trouve qu'il y a plus de jeux... qu'avant, tu vois, que ce soit au niveau des expressions du visage et tout, je me permets de faire par exemple des grimaces alors que j'étais incapable avant, des variations de ton aussi et des impros, tu vois, c'est presque du détail et de la dentelle de stand-upper, mais et je sais pas si ça se voit en plus, mais moi je sais que je rentre beaucoup moins dans un cadre que je m'étais fixé avant. Je peux monter sur scène, tu vois, par exemple en ayant un truc auquel j'ai pensé en allant dans un comedy club, tu vois. Là où avant, je t'aurais dit, il faut que je l'écrive, que je l'apprenne par cœur, et que je me le répète 9 fois, et que je teste 30 secondes, et pour moi, 30 secondes, c'est le bout du monde. Là, ça arrive que parfois, je pense à un truc dans la journée, je me l'écris un peu dans ma tête, et le soir, je vais essayer 2 minutes.
Et en général, ça le fait ?
Plus qu'avant.
Okay.
J'ai l'impression que si une bonne blague c'est de l'or, on va dire, je trouve plus facilement l'or qu'avant, peut-être.
Pourquoi t'as commencé à faire de l'humour si c'était vraiment tes deux phobies de...
Ouais, ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça. J'ai aussi longtemps que je me rappelle, j'ai toujours été passionné de ça. J'ai vraiment le souvenir de genre à 10 ans regarder Gad Elmaleh en boucle et Jamel et plein de trucs.
Mais tu disais que c'était un métier ?
Non, mais je me disais, c'est, je sais pas, genre coup de cœur, quoi. Je me disais, c'est fou, en fait, c'est trop marrant. C'est vraiment, c'est... Entre ça et un film, je préfère regarder un spectacle. Parce que c'est du rire condensé pendant une heure et demie sur des trucs qui te parlent et où tu te dis, mais attends, comment Gad Elmaleh, que je ne connais pas, arrive à me dire que dans son entrée, il y a un pot avec des piles et des clés de valise et que j'ai le même pot chez moi, tu vois. Ça me paraissait fou, en fait, de connecter les gens comme ça. Et je m'étais toujours dit, vas-y, un jour, je fais ça. Et en fait, on me disait souvent, t'es marrant. Et je crois que c'est un des seuls trucs qu'on me disait à l'époque, tu vois, qui ressortait. J'avais l'impression d'avoir aucune qualité. Et par contre, je me disais, bon, par contre, s'il y a un truc, c'est que tout le monde te dit, ouais, t'as l'air un peu marrant. Et c'était un peu mon phare de me dire, bon, j'ai pas l'impression d'être complètement raté. J'ai peut-être un petit truc. Et en fait, je me suis dit, c'est dommage quand t'as un petit truc de pas le pousser. Et j'entendais pas mal de profs, tu vois, dans mon lycée qui disaient, j'avais une prof d'espagnol qui m'avait dit, moi, je voulais être danseuse étoile. Et en fait, j'ai pas persévéré et je suis devenu prof d'espagnol. Et je m'étais dit, bon, bah, si elle est heureuse comme ça, tant mieux. Mais je m'étais dit, c'est dommage quand on te fait remarquer que t'as un petit talent entre guillemets dans un truc, de pas le pousser au bout. Et donc, je sais pas, j'ai gardé ce truc et un jour je me suis dit, bon, en fait, j'ai pas envie de me dire dans 30 ans que je l'aurais jamais fait, donc même si ça te fait très peur, fais-le. Et surtout, en vrai, j'avais complètement rien à perdre à l'époque. Factuellement, à part passer un mauvais moment, tu vois.
T'avais prévenu tes potes?
Comment j'ai fait? Bah, c'était un peu particulier. En fait, j'ai fait ma première scène bien avant que je commence pour de vrai. Je sais pas si tu...
J'étais parti en Erasmus, ça ?
Non, en fait, j'étais à l'étranger. Et juste avant de partir à l'étranger, j'étais tombé sur un concours sur Internet qui s'appelait le Campus Comedy Tour, dans lequel ils proposaient à des étudiants de faire la première partie d'artistes qui eux-mêmes venaient jouer leur spectacle dans une école. Et moi, j'avais vu ça avec un pote et j'avais dit, putain, ce serait trop bien de s'inscrire et tout. Je contacte les filles qui gèrent ça dans mon école. Elles me disent, oui, on est au mois d'août, Paul. OK, toi qui es timide, qui parle pas en classe, tu veux faire des blagues. Ok, ben on se recontacte ultérieurement. Donc elle m'avait totalement pas pris au sérieux. Et vraiment, littéralement, 4 mois après, je reçois un mail. Bonjour Paul, tu es bien inscrit au concours. Dans un mois, tu fais la première partie à l'époque du Whoop à l'Apollo Théâtre devant 350 personnes. Et donc là, c'est ok. En fait, je leur ai proposé un truc et là, c'est vraiment sérieux. Et donc, j'ai écrit quelques trucs chez moi. Et j'ai fait un truc que même avec 4 ans de métier, je ne referai jamais, je pense. C'est j'ai complètement testé un sketch pour la première fois en première partie dans une salle de 400 places, tu vois. Ce qui, en vrai, je pense, si on me le propose maintenant, si on me dit « Est-ce que tu veux venir tester un truc pour la première fois en première partie de quelqu'un de connu ?» Je dis « Bah non, parce que je ne l'ai jamais fait avant. » Donc là, ouais. Je l'ai fait. J'avais tous mes potes dans la salle et tout, mais ça s'est quand même bien passé. J'ai fait une deuxième scène qui était la finale de ce concours où je suis arrivé deuxième et où j'ai perdu à pas grand chose devant 1000 personnes. Donc ma première scène, ma deuxième scène, c'était une cigale quasiment. Et après, j'ai fait une troisième scène, énorme bide, intersidéral. Et là, j'ai dit, ok, pas assez de persévérance pour continuer. J'ai arrêté quasiment 2 ans où je suis parti à l'étranger, où j'ai fait d'autres trucs. Et au bout de 2 ans, j'ai dit, bon, en fait, c'était quand même cool ça et j'ai bien aimé, j'ai pas envie de lâcher. Donc, et c'est un moment où mes études me plaisaient plus du tout. Donc j'ai dit, bon, bah, je vais arrêter de procrastiner un truc que j'ai entrepris il y a 2 ans et recommencer. Et donc là, on tombe sur début 2018.
T'as fait du commerce, c'est ça?
Ouais.
Pourquoi?
Parce que je voulais monter à Paris après mes études et que je savais pas quoi faire. Et donc je suis monté à Paris. Je voulais juste aller à Paris. C'était un de mes rêves aussi. Et quand tu sais pas quoi faire et que voilà, de fil en aiguille, j'ai fait un peu ça.
Tu fais de la com.
Ouais, non, je sais pas. Au début, je m'étais dit, c'était, tu vois, comme quoi, j'avais passé des concours parce que je voulais travailler dans le foot. Et l'année où j'ai le concours, donc juste après mon bac, il nous explique que c'est la dernière année dans laquelle il y a la spécialisation sport. Mmh. Et donc, en fait, je comprends que je suis rentré dans une école où la spécialisation que je voulais disparaissait. Mmh. Donc, je m'étais dit, bon, bah, 1-0 pour vous, mais maintenant, moi, je fais quoi? Et après, je me suis dit non, en fait, t'as complètement rien à perdre à essayer un truc qui te plaît. Mais c'est, au début, c'était vraiment dur. Hein. Je me suis mis dans des avec du recul là. Je suis content que maintenant ce soit du. J'ai l'impression que c'est des graines de travail qui ont été semées qui font que maintenant je peux m'amuser et profiter et me dire que je l'ai pas volé et que je profite un peu, tu vois. Mais c'est vraiment même maintenant avec pas beaucoup d'années de recul, je me dis mais j'ai quand même fait des trucs qui n'ont aucun sens quoi. Genre. Je jouais genre maintenant un peu moins tu vois, mais il y a vraiment des fois où je pense pendant 2 ans j'ai joué 6 fois par soir tous les soirs à 6 endroits différents qui vont de commencer à 17h dans Paris et à finir à minuit dans une chicha au bord du périph quoi. Et parfois je faisais ça le. Je me rappelle, j'ai souvenir, entre le vendredi et le samedi, je jouais 6 fois le vendredi, 6 fois le samedi et 6 fois le dimanche. Et le dimanche, je commençais à 14h et je terminais le samedi à 2h du mat. Quoi. Donc, je faisais des blagues tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en vrai, ça a un peu porté ses fruits, mais il y a d'autres choses à faire dans la vie non plus. Tu vois.
Et, mais tu kiffais sur le moment?
Ouais. Franchement, oui. En fait, je pense que je l'aurais pas fait si je kiffais pas, mais je pense aussi que c'est pas forcément c'est constructif jusqu'à un certain point. Mmh. Mais il a fallu que j'en fasse beaucoup pour me rendre compte qu'en fait je pouvais un peu relâcher, tu vois. Mmh. Je dis pas que je le referais pas pour un prochain spectacle et tout, et ça a été ma façon à moi de me rassurer et de travailler. Il y a sûrement des gens qui en ont d'autres, tu vois. T'as des gens qui vont te dire moi je marche 2 heures dans Paris et j'ai des idées. Moi je sais que j'étais très scolaire sur ça et que il me fallait un cadre très précis et très scolaire du coup pour me dire ok, je m'engage quand même dans un truc qui est un peu compliqué, donc si je veux que ce soit le moins compliqué possible, il faut que je me fixe un peu des règles, sinon si c'est compliqué et qu'en plus je me laisse vivre, je vais jamais m'en sortir.
Et donc le matin tu te lèves, t'écris des blagues?
Moi maintenant, parce que contrainte d'emploi du temps, ben j'ai un peu moins le temps, mais en tout cas je pense que j'ai une rigueur dans le travail qui fait que au début ça a été un des premiers objectifs de me dire je sais pas toi comment tu faisais, si t'as toujours été très rigoureuse, mais je pense quand t'es un peu flemmard, ce qui j'ai l'impression est la nature de pas mal de gens, en fait si tu t'obliges pas il y a toujours une raison de pas faire ce que tu dois faire. Et tu vois, par exemple, au début, j'avais pris une journée type, je m'étais dit, ok, de 8h à 17h, t'es en cours. De 17h à 19h, tu joues à la play ou tu vois tes potes. Et à 20h, tu bosses les devoirs que t'as à rendre et tu vas te coucher. Je m'étais dit, ok, si je veux caler des blagues là-dedans, qu'est-ce que je peux renier? Le sommeil, un peu compliqué. Les cours, je peux pas les manquer. Et donc, je m'étais dit, bon, bah, le premier truc à couper, c'est au lieu de faire 2 heures de PlayStation, tu fais 2 heures de blagues. Et donc, je m'étais imposé ce truc-là. Et en fait, maintenant, je sais que j'ai plus aucun problème à me lever et à me mettre à mon bureau une demi-heure après, à me dire travail, quoi. Je pense qu'il y a une. Comment dire? J'ai assimilé une forme de rigueur et d'exigence qui fait que c'est plus du tout une contrainte de me lever pour travailler ou de travailler toute la journée. Au même titre que, tu vois, un sportif, par exemple, je dirais, bon, bah, oui, je me lève le matin et je vais courir. Et maintenant, en fait, c'est la norme, quasiment, d'aller.
Et comment tu bosses? Est-ce que t'as un peu des idées de pistes, de sujets que tu veux creuser? Ou est-ce que t'arrives et tu te dis, ok, je me mets devant ma feuille, maintenant, sois drôle?
Ça a un peu changé, je t'avoue. Au début, enfin pendant très longtemps d'ailleurs, j'ai toujours pas résolu ce truc dans ma tête, mais au début, je me posais souvent, je notais des trucs dans mon iPhone, des mots-clés, des idées, et je les prenais une par une et je les développais sur une feuille. Mais inconvénient, c'est qu'à la fin, j'avais une minute sur
plein de trucs.
Ouais. Et donc le premier objectif, c'était de tout recouper et de me dire de dire par exemple, là je parle du train, là je parle de l'avion, là je parle du bus. Ok, il y a un petit lien logique, les transports. Et donc j'ai mis hyper longtemps à faire ça. Et je me laissais devant ma feuille et j'écrivais, mais longtemps. Hein. Parfois j'allais au café à 8h et je sortais genre à 14h. Je faisais que ça. Et après je retriais, je remettais au propre et je gardais que la pulpe, on va dire. Et maintenant, avec les chroniques, ça a un peu contribué à ça aussi. Parfois, je prends un thème et je me dis, bon, bah, essaye de trouver tout ce que t'as sur ce thème-là, mais je suis pas entièrement satisfait de ça. Je trouve que c'est aussi dur que de n'avoir rien à dire et laisser vivre ton stylo sur une feuille. Je sais pas quelle est la meilleure méthode pour l'instant.
Ok. Et pourquoi ça, c'est un peu la question que je me suis posée quand j'ai vu que t'arrivais chez Inter. C'est pourquoi tu t'infliges ça? Alors qu'en général, les humoristes le font pour remplir leur salle. Toi, tout est déjà complet depuis bien longtemps. Pourquoi tu t'infliges de devoir écrire chaque semaine en 3 minutes efficaces alors que t'avais déjà la rigueur?
Parce que il y avait plusieurs trucs qui m'intéressaient déjà au début. Je sais pas s'ils écouteront, mais je voulais pas du tout le faire. Quand on m'a dit « Est-ce que tu veux faire une chronique ?» J'ai dit « Non, c'est mort. » Mais presque un truc prétentieux sans s'en rendre compte, quoi. De se dire non, c'est bon, il y a déjà des gens qui viennent. J'écoutais pas France Inter, je savais même pas ce que c'était en vrai, tu vois, la bande. Et après je me suis dit, en fait, déjà c'est une audience qui à 99% te connaît pas, donc c'est cool, parce que si j'arrive à faire rire des gens qui ont mon âge, des gens plus jeunes et des gens plus âgés qui m'écoutent au bureau en écoutant la radio, c'est cool en fait. Ça veut dire que c'est assez universel pour faire rire tout le monde. Donc il y avait déjà ce petit enjeu. Et surtout, j'ai l'impression que, et ça c'est un des trucs par contre que m'ont appris entre guillemets les comedy clubs, c'est que c'est pas très compliqué d'avoir 5 minutes marrantes. Ce qui est un peu la première étape, s'il y a des gens qui font pas de stand-up qui écoutent. Quand tu joues, j'ai l'impression que c'est avoir un premier sketch un peu marrant. Par contre, moi, les gens qui m'impressionnaient, c'est les gens qui, toutes les semaines, avaient des nouvelles blagues qui étaient au même niveau que celles de la semaine dernière et qui s'attachaient pas, en fait, à ce qu'ils jouaient, qui jetaient, qui réécrivaient et qui repoussaient un peu, tu vois, leur meilleur niveau chaque semaine.
Ils ont pas le résultat, ils ont la machine qui fait, quoi.
Ouais, c'est surtout, tu vois, quand tu... Moi, je me suis fait surprendre quelquefois à aller dans des endroits, à être pendant un mois, par exemple, à avoir un truc qui marche très bien, et à revenir 3-4 mois après avec le même truc. Tes potes te disent, tiens, mais ça, c'est le truc que t'avais il y a 3-4 mois, et tu vois qu'entre-temps, il y en a plein d'autres qui sont arrivés avec des trucs super marrants, et tu dis, waouh, ça, c'est nouveau, et c'est super marrant, ça veut dire que les gens autour continuent de bosser. Et je m'étais dit, avec France Inter, ça va mettre une rigueur qui fait que j'ai l'impression que je vais être obligé, en fait, je vais factuellement être obligé d'écrire des nouvelles blagues toutes les semaines. Et donc, ça va m'apprendre le métier d'humoriste qui est être capable d'écrire sur n'importe quoi, à peu près n'importe quand, tu vois. dans le sens où ouais, si tu joues tous les soirs, c'est pas compliqué d'avoir un bon sketch. Par contre, avoir 10 bons sketchs du même niveau et pouvoir en écrire un n'importe quand et assez rapidement, ça c'est vraiment ce qui m'intéressait. Et je sais pas si j'y suis arrivé, mais en tout cas, j'ai l'impression que, comme je te disais tout à l'heure, je trouve plus rapidement l'or. Et l'or est un peu meilleur au bout.
Ok. Attends, merde, je voulais rebondir sur un truc que t'as dit.
Est-ce que je doute ? Oui.
C'est quoi ton rapport au doute ?
De toute ma vie. J'ai aucune certitude sur rien. Que ce soit avec les gens, tu vois, si j'ai des petites convictions sur certains trucs, mais si tu me fais comprendre que c'est pas ta façon de penser et que la vie a fait que, en fait, tu penses d'une façon et que moi je pense d'une autre façon, c'est hyper réconfortant de se dire que tout le monde pense pas pareil et que c'est ok. Et non, j'ai l'impression que dans tout ce qu'on fait, c'est bien d'avoir du doute, quoi. C'est bien d'avoir des petites convictions et des petits moteurs, mais c'est tellement plus grand que nous ce qu'on fait que tu peux pas arriver et dire je suis sûr que cette blague est marrante ou je suis sûr que ce spectacle va marcher ou tu vois. Je trouve que c'est rassurant de se dire que en fait tu sais pas tout, qu'il y a des moyens de comment dire d'atténuer ces doutes, tu vois. Moi c'est le travail par exemple de me dire OK, ça j'ai aucune idée de si ça va être marrant, mais je sais par contre que j'ai l'impression que si je le fais 20 fois ça sera plus marrant que si je le fais une fois. Donc je trouve des outils pour moins douter, mais non, tout le temps. Tu vois, même là, du jour au lendemain, je suis capable de dire un soir mon spectacle était trop bien et le lendemain dire mais c'est catastrophique, comment je peux présenter ça à des gens, quoi. Donc non, je doute perpétuellement.
C'est marrant que tu dises c'est tellement plus grand que nous. Genre, il y a un peu un côté divinité comme ça.
Non, mais c'est... après, bon, on fait, tu vois, en vrai, on fait... Dit comme ça, ça peut faire impressionnant, mais on reste des gens qui font des blagues.
Oui, en vrai, les humoristes qui parlent entre eux, ils se prennent pour des philosophes. En vrai, tout ce qu'on fait, c'est des blagues
de tub.
Hein.
Oui, et surtout, tu vois, il y a un peu ce grand débat de... Enfin, c'est pas ce débat, mais c'est cette mouvance un peu de se dire qu'il y a des gens qui veulent t'apprendre des trucs en étant sur scène. Moi, je trouve que c'est hyper louable, mais c'est aussi louable de se dire que, en fait, t'as juste fait rire les gens pendant 8 minutes et que ça va pas plus loin, tu vois. Et c'est, je trouve que c'est même dans la comédie au sens large, t'as beaucoup de gens qui disent que quand ils voient un truc très drôle, ils disent oui, mais ça raconte rien, oui, mais y a pas de fond. Mais déjà, c'est dur, je pense, d'arriver à faire un truc qui est très marrant. Et surtout, c'est pas grave, tu vois, au même titre que moi, l'été, j'écoute Maître Gims et je chante des paroles que je ne comprends pas juste pour m'ambiancer. Et parfois, j'écoute des chansons beaucoup plus conscientes et où je me prends la tête sur chaque mot. Parfois, il y a des trucs qui sont très marrants et tu sais pas pourquoi. Et parfois, il y a des trucs qui te font un peu plus réfléchir.
Et toi, moi j'avais beaucoup ce côté snob au début. J'étais très genre, oui, mais il n'y a pas un truc derrière. Et puis maintenant, je suis comme, tu sais quoi, là, la vie, pour l'instant, le monde est en feu. Si on arrive déjà à se marrer pendant une heure,
ouais.
C'est cool. C'est de plus en plus précieux, j'ai l'impression. Mais c'est aussi de plus en plus difficile, je pense. Je sais pas comment t'as vécu un peu les dernières années et tout, mais j'ai l'impression que tout est tellement plus plombant. Mais c'est le moment où les gens ont le plus besoin de rigoler, donc il y a un peu un truc de pas savoir sur quel pied danser, parce que d'un côté tout l'humour est clairement vain, mais en même temps c'est tout ce qui reste.
Moi j'aime bien me dire que en fait j'essaie de me dire que je mets autant de cœur possible pour faire un truc qui me plaît, que du coup potentiellement ça peut plaire aux gens. Et que si j'ai réussi à te détendre à travers une chronique, un sketch ou juste en se croisant dans la rue et en se faisant un sourire parce que tu m'avais vu sur internet et que ça t'a fait plaisir qu'on se croise, je me dis c'est pas grand chose, mais c'est déjà un petit pas, tu vois. Et si tout le monde fait des petits pas de cette façon-là,
on va loin.
On va s'en sortir, quoi. Après. Ce qu'on fait, c'est pas très important, mais si ça peut aider, c'est déjà mieux que rien, tu vois. Mais c'est marrant que tu me dises ça, parce que, notamment, je sais pas si je vais dire grâce ou à cause de France Inter, mais je me suis intéressé à plein de sujets d'actualité ou de société sur lesquels j'avais pas pris la peine avant de m'intéresser. Et c'est une... là, ça fait quelques mois que je... En fait, je me dis, le monde est en feu. Tu vois, alors qu'avant, j'étais juste en mode, bah, c'est trop cool, je fais des petites blagues sur scène le soir, et voilà. Et là, maintenant, ma première pensée le matin, c'est, waouh, le monde est en feu, mais il faut que j'aille quand même faire mes petites blagues sur scène ce soir.
France Inter t'a brisé.
Oui, vraiment, mais c'est, tu sais, quand toute la journée, c'est tout bête, mais avant, tu vois, j'écoutais pas tant que ça les infos, par exemple. Et là, quand, en fait, tu te rends compte que les infos, c'est souvent des mauvaises nouvelles, et que t'es obligé un peu de les suivre parce que tu fais une chronique et parce que c'est l'actualité. Moi, ça m'a un peu... Ouais, il y a des fois où... Là, il y a quelques jours, il n'y a pas si longtemps, je me suis dit, mais attends, la cause des femmes, c'est un problème. L'écologie, c'est un problème. Le racisme, c'est un problème. Il y a la guerre, il y a une pandémie. Et je me suis dit, waouh. Et j'ai vraiment eu l'impression d'être étouffé d'un coup. Et après, je me suis dit, bon, faut dealer avec ça parce qu'en fait, ça s'appelle la vie. Donc, essaye
ce
de...
Ce soir, 18h, il n'y a pas Paname.
Oui, et donc, essaye, toi, de faire... de détendre les gens autant que tu peux. Peut-être, même si tu arrives à les détendre sur des sujets qui sont oppressants, c'est encore mieux. Mais déjà, si tu arrives à les détendre, c'est cool.
Mmh. Et t'as aussi ce truc un peu, surtout au début, de « putain, je suis sur France Inter, il faut que je dise des choses intelligentes. »
Ouais. Ouais, un peu. Mais après, tu vois, on parlait de doute. Ce qui a été hyper cool, c'est que vu que j'écoutais pas du tout l'émission et que je savais pas du tout où je mettais les pieds, ça m'a totalement déstressé et décomplexé. Tu vois, c'était pas du tout un rêve d'être là-bas. J'étais par exemple beaucoup plus stressé en allant au Jamel Comedy Club parce que je m'étais...
Parce que Jamel, c'est une de tes idoles.
Ouais, je m'étais projeté, je m'étais dit, ok, là, t'es enfin dans un truc que, dont tu rêvais, que t'idéalisais et tout. Là, je me suis dit, ok, c'est de la radio, quoi. Si ça vous plaît, tant mieux, sinon, tant pis. Mais je me suis jamais dit, il y a du monde qui écoute. C'est une des plus grosses émissions à la radio. Et en fait, ça m'a vachement aidé de pas du tout savoir où je mettais les pieds et d'y aller en totale ignorance.
Mais ça rejoint ce que tu dis tantôt, et c'est sur ça que je voulais rebondir en fait. Quand tu parlais tantôt de quand toi, tu t'avais un truc, puis 4 mois plus tard, tu reviens, les autres, ils ont avancé, mais toi pas. Mm-hmm. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un métier où il faut jamais relever la tête, parce que sinon, tu vois à quel point... En fait, ça met une pression de dingue de relever la tête parce que tu vois que tous les autres, ils avancent. Tous les autres, ils ont plein de trucs sur le feu et tout. Et toi, tu te sens vite tout petit avec tes projets, même si c'est des chouettes trucs. Et si tu regardes trop les chroniques, si tu regardes trop les enjeux et tout, c'est hyper paralysant, je trouve.
Après, moi, il y a des trucs qui me motivent. Tu vois, en vrai, je pense que c'est paralysant quand tu... Je pense que ça devient paralysant quand tu sais que tu travailles pas et quand on te renvoie au fait que tu travailles pas assez. Mais moi, quand je vois des gens qui font des super trucs et où, dans un premier temps, je me le prends en tant que spectateur et je me dis c'est génial, je me dis juste, en fait, trop cool. Moi aussi, si un jour, c'est cette personne qui me voit sur scène, j'aimerais bien qu'elle se dise, ah ouais, tiens, ce truc, j'y avais pas pensé, c'est hyper cool, tu vois. Mais il y a pas du tout de, comment dire? Et ça n'engendre aucune frustration, et au contraire, je me dis, bah, tant mieux, si lui, il y arrive, c'est que c'est faisable, et moi, ça me motive d'autant plus à travailler quand je vois des gens qui sont très marrants.
Ben, je pense que tu viens de crack. Un truc qui me saoule un peu depuis, je pense un peu depuis toujours de genre, un peu les jalousies, tu vois. Genre, tu vois les gens, ils font des trucs, et t'es comme, ouais. Et genre, des fois, je suis jalouse qu'on m'ait pas proposé un truc que j'aurais pas voulu faire.
Ouais. Ah, tu vois? C'est fait. Ouais, ouais.
C'est alors que j'ai pas envie, mais le fait qu'il se soit pas
ils
dit,
aient pas pensé,
ouais, je suis comme vexée, alors que putain, meuf, mais pour qui tu te prends?
Après, je me dis, tu sais, c'est pas des cycles, mais c'est la vie, quoi. C'est comme les castings ou les trucs comme ça, parfois c'est pas toi au bon moment. Et
oui, non, c'est sûr, objectivement, oui, il y a plein de raisons, oui. Juste tu corresponds pas à machin, mais, ouais, ouais. Mais l'ego, la place de l'ego dans ce métier, c'est un délire.
Ouais,
hein.
Ouais, ouais. Et même, tu vois, ça a mis du temps, ça aussi. J'ai mis du temps à l'accepter, mais se dire que... En fait, je pense qu'il faut très rapidement se dire et intégrer qu'il y a des jours où tu vas être marrant et des jours où tu vas pas être marrant. Et il y a des jours où ça va être très bien, et il y a des jours où ça va pas être bien. Le but, c'est qu'il y ait le moins possible de jours où ce soit pas bien, mais qu'en fait, c'est un équilibre, et qu'il y en aura forcément, et qu'il faut juste être le plus à l'aise avec ça, sinon ta vie va être compliquée, quoi.
Ouais.
Tu vois.
Ouais, moi ça m'a aidé. Hein. Je me disais quand il se passait un truc nul, enfin quand je foirais, quand je bidais ou quoi, je me disais bah au moins ça, il est tombé maintenant, donc bah demain ça ira.
Ouais,
statistiquement.
Oui. Ouais, ouais.
Il est passé.
Ouais, bien sûr.
Ouais.
Bien sûr. Et surtout en vrai, ce qu'on fait, c'est ça se corrige, tu vois. C'est, il y a des règles. Il y a des règles qui font que bah si c'est pas marrant. Tu peux très facilement t'enregistrer, te réécouter, dire ok, ça c'est, je comprends pourquoi ça n'a pas marché, et bosser pour que ça. C'est, il y a beaucoup d'inconnus, mais il y a quand même beaucoup de règles qui font que tu peux te réajuster.
Oui, ça reste très mathématique.
Ouais,
quand même,
ça reste assez scolaire quand ce qu'on fait, tu vois. Là où par exemple, je pense que la musique c'est beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus subjectif. Nous, si tu montes sur scène et que t'as fait rire personne, tu peux pas dire bah j'ai été marrant, quoi. Si vraiment personne n'a ri dans la salle, alors que peut-être quelqu'un, tu vois, qui chante, t'as des gens qui peuvent aimer et d'autres moins aimer. Mais j'ai l'impression que ce qu'on fait, c'est quand même il y a quand même un cadre très formel qui fait que c'est rassurant, quoi. Tu sais, en fait, tu peux très vite te, il y a une place de doute, mais il y a aussi une place mathématique scolaire qui fait que tu peux régler tes problèmes s'il y en a.
Comment t'as fait vu que t'as très très vite explosé, enfin du jour au lendemain, t'es devenu un peu resta. Comment tu fais?
Pas prendre de drogue.
Non mais ça d'ailleurs tu bois pas d'alcool.
Non.
Pourquoi?
Parce que j'aime pas. Je te jure ça va pas plus loin que ça.
Ok.
Je buvais avant comme tout ado. Un peu retardé. Et il y a genre 3 ans, je me suis dit, en fait, je n'aime pas ça. J'aime pas perdre le contrôle de moi-même. Et c'est surtout par un mimétisme, parce qu'on m'a ancré depuis que je suis tout petit qu'en fait, c'est stylé de boire de l'alcool.
Mmh.
Et en fait, je me suis dit, juste si tu te poses, il n'y a aucune raison de faire ça. Et même, tu vois, pour le travail, je me rendais compte que bah, si tu sors jusqu'à 4h du mat, j'étais pas un grand fêtard, mais tu dis, bon, après, il y a potentiellement 2 jours où tu peux rien faire. Et je m'étais dit, dans une période où, en fait, t'es censé plutôt faire des sacrifices que t'amuser, bah, si tu peux t'éviter ça en plus, c'est cool. Et en fait, j'aime pas.
Mais c'est marrant que tu dises que t'aimes pas perdre le contrôle. Parce que tu vois, j'ai l'impression que t'es tellement scolaire et rigoureux dans ta vie. Il y a pas de moment où tu t'es comme tu sais quoi fuck it et genre tu tues des lapins, je sais pas.
Non. Bah c'est un peu sur scène. Je sais pas comment dire, mais le moment où je suis sur un petit nuage de je fais ce que je veux, c'est sur scène.
OK.
Et ça m'arrive parfois, je le faisais beaucoup avant, j'allais marcher en écoutant de la musique. Donc tout seul, là t'es tout seul, mais c'est, tu vois, ça reste un niveau de je pète les plombs quand même très calme quoi. Mais je faisais souvent, ouais. Non, j'ai pas, franchement, il y a plein de gens qui me demandent ça, mais j'ai pas de. Non, je me fais. C'est souvent dans ma tête. Le sport, ça m'aide un peu. Tu vois, là, c'est la première année où je sens que parfois, quand c'est vraiment trop, je faisais un peu des crises d'angoisse sur scène, là, en début d'année. Ce qui m'arrivait pas avant et ce qui est pas forcément cool. Sachant qu'être sur scène, c'est déjà dur, mais quand au bout de 5 minutes, tu te dis, là, il me reste 55 minutes et je sens que. Il se passe des trucs dans ma tête et dans mon corps.
Mais ça se présentait comment?
Ça me l'a souvent fait en début de spectacle, quelques fois là cette année, où en fait je faisais trop de trucs dans la journée et j'arrivais au spectacle chargé d'un milliard de choses. Et en fait je montais sur scène et ça me rajoutait, c'était vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, de me dire ok là en fait j'arrive plus à tout contrôler. Et voix un peu tremblante, même si bon, l'avantage, ça m'avait fait rire, on m'avait dit ça une fois, c'est qu'en fait j'ai tellement un perso stressé que ça se voit pas, tu vois.
Ouais.
Et mais moi je le savais, et donc en fait c'est un cercle vicieux, parce que tu dis oula, là il se passe un truc, et tu dis les gens sont en train de le voir, et donc tu stresses encore plus, et en fait ça passe, tu vois, et il m'est jamais rien arrivé de grave, je touche du plastique, mais Non, je me mettais des petits coups de stress, j'avais chaud, j'avais la voix qui tremblait, j'arrivais plus à parler, je savais plus où j'en étais, je voyais que les lumières sur scène et tout. Et en fait, tu souffles un peu et tu fais ton texte et ça va. Mais le sport, ça m'a un peu aidé à, en fait, déjà fondamentalement à être fatigué et donc en fait être détendu physiquement et à pendant une heure à ne plus penser à rien que de faire du sport.
Ok. La question que j'avais commencé avant qu'on parle de ta grande consommation de drogue, c'est
toutes sortes de drogues, hein, précisons pour les
auditeurs. Tu les prends toutes ?
Ouais, bien sûr. Okay. Au petit déj.
Tartine de crack.
Tartine de crack et jus de d'héroïne.
Je sais même pas quelle forme ça a, l'héroïne.
Non plus. Mais non, je prends rien du tout. J'ai un rapport au danger qui est vraiment néant.
Par contre, il paraît qu'avant de monter sur scène, tu manges des pommes potes.
Ouais. Ouais, j'ai mes petits. Toi, t'as des rituels avant de monter sur scène?
En général, je dégomme ce qu'il y a à bouffer dans la loge pour pas faire d'hypo.
Ok.
Genre des fruits secs et tout, mais sinon, non. Vraiment, j'arrive un peu là, les mains dans les poches.
T'as pas de mimétisme par rapport de date en date?
Non. Non. Enfin, en fait, vu que je bosse sur pas mal de choses en même temps, le spectacle n'est pas spécialement le point culminant de ma journée, tu vois. C'est genre une tâche que j'ai, et donc je suis relativement zen.
Ah ouais, ok.
Donc,
Ah ouais, ok. D'accord.
Donc voilà, je le vois juste comme un truc dans la liste.
D'accord.
Et c'est cool, hein. Mais
ça peut être aussi important que ta séance d'écriture du matin, par
exemple. Ouais, c'est ça, tu
vois. D'accord, ok.
Donc non, je n'ai pas trop de rituels ou quoi que ce soit. Mais oui, vu que t'es devenu très vite quelqu'un, tu vois, ton rapport avec les gens, il change. Ton rapport, que ce soit avec les humoristes, avec le public et tout. Comment tu fais pour savoir si t'étais drôle ou si les gens sont juste contents de t'avoir vu parce qu'ils t'aiment bien? Tu vois? Parce que les gens ont tendance à crier au génie dès que t'es un peu connu et tout. Mmh. Et moi, il n'y a rien qui me saoule plus que des gens qui me disent c'était génial alors que moi, je sais que c'était à chier, en fait.
Bah, je pense qu'au fond, en vrai, je pense que si on aime vraiment ce qu'on fait et que si moi, un de mes premiers défis et toujours, hein, même d'ailleurs, tu vois, c'est vraiment si j'ai une ligne de conduite dans ce que je fais, c'est ça. C'est je veux pas être connu ou tout ce que tu veux. Je veux vraiment être fort. Tu vois, dans le sens où je veux me dire, ok, dans 6 mois, je serai meilleur que aujourd'hui. Et je veux que tout ce qui se passe et tout ce que ça engendre soit juste la conséquence du fait que c'était bien ce que j'ai proposé. Et ma plus grosse angoisse là pendant longtemps, et même toujours, hein, c'était de me dire j'ai pas envie que les gens, que je sois connu entre guillemets ou visible, et qu'en fait les gens viennent et se disent il est juste connu quoi. Mmh. Et il est plus connu que ce qu'il est fort, tu vois. Et donc là, parfois quand je me pose des questions ou que je suis en doute et que j'ai envie de dire bah j'arrête tout et je vais élever des chèvres dans le Larzac, je me dis bon, j'ai l'impression que j'ai quand même suffisamment bossé ce spectacle pour que tu puisses pas dire c'était vraiment nul, il s'est foutu de nous, c'était une arnaque d'internet, c'était marrant 5 minutes et en fait sur 1h15 ça ne l'est pas. Et donc je me dis il y a quand même un minimum. Et je connais mon métier, parce qu'en vrai, on oublie, je trouve, parfois que c'est... Enfin, qu'en vrai, c'est notre métier, tu vois. Mmh. Et ce que tu vois sur les réseaux ou tout ça, c'est pas notre quotidien. Notre quotidien, c'est plus écrire beaucoup de blagues qui marchent pas. Et
prendre des trains.
Ouais, voilà, en vrai, tu vois. Et c'est pas faire une vidéo qui fait des vues ou faire un gala avec une veste en paillettes. Et donc, je me rassure en me disant que j'ai tellement travaillé ce spectacle-là que, en fait... Ça justifie le fait que les gens se déplacent. Et je me dis, ok, il y a beaucoup de gens qui viennent, mais ça s'arrêterait si c'était vraiment de l'arnaque, tu vois.
Et t'as peur que... Des fois, t'as encore peur que ce soit le cas?
Ah oui, tout le temps. Tous les soirs, ouais.
Ah ouais?
Ouais, mais après, je me rassure en me disant, bon, ben là... pour l'instant, je suis jamais... Tu vois, j'ai jamais eu de gens qui sont sortis en disant j'ai détesté... Il s'est vraiment foutu nous. Tu vois, ça arrive, hein, sans citer de nom, mais moi, il y a plein de gens que je vois qui, du jour au lendemain, deviennent connus par Internet, parce que c'est en vrai un des trucs te permettre de devenir le plus médiatisé rapidement. Et tu dis, d'accord, mais en fait, moi, les 5000 heures que j'ai passées sur scène, lui, il les a pas faites. Donc, à moins qu'il y ait une formule magique ou qu'il ait un talent de Super Saiyan, j'espère que ce que j'ai fait fait que, en fait, il y a des choses qui ne s'inventent pas et qui tu pourras pas acheter ce temps sur scène d'une autre façon, tu vois. Donc là, je me dis, ok, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui se déplacent, c'est cool, mais le plus important, c'est d'être sûr que ce que tu fais est gage de qualité et que c'est marrant et que tu proposes quand même un truc sincère et qui fonctionne, tu vois. Mais je pense que, pour revenir à la question que tu as posée il y a 6 ans, j'ai l'impression que quand c'est... Tu peux te rassurer en disant les gens me ont bien aimé parce qu'ils m'ont vu, mais en vrai, si t'aimes vraiment ce métier, tu sais que t'as pas été marrant. Ça m'est arrivé, hein, moi, quelquefois, tu vois, de monter sur scène et me dire, bah vas-y, en vrai, les gens, ils avaient l'air contents, sauf qu'en fait, tu sais que c'était nul, quoi. Et tu sais qu'ils ont le sourire parce que t'étais là, mais qu'en fait, c'était vraiment pas bien.
Comment tu l'as bossé, le spectacle ? C'était bout à bout, c'était...
Comme un album de rap. On parlait de ça au début. J'ai vraiment... J'ai pris mes albums préférés et je me suis dit, ok, bah là, il y a une chanson où tu danses, là, il y a une chanson où tu réfléchis, là, il y a une chanson où tu pleures, là, il y a un petit interlude, et là, il y a une chanson qui boucle tout l'album. Et je me suis un peu gardé cette ligne de conduite. Après, je trouve qu'on se fait aussi beaucoup de... Comment dire ? Moi, la logique que j'ai en présentant le spectacle, c'est pas forcément celle que les gens se reçoivent, tu vois. Et c'est presque rassurant de se dire qu'ils voient pas...
Ouais, ils voient pas les ficelles.
Tous les détails et ouais. Toutes les ficelles. Et de se dire que parfois, t'as quelqu'un qui va dire « Ah tiens, t'as mis ça à cet endroit-là parce que telle raison. » Et tu vas dire « Ouais, c'est bien que tu l'aies relevé, mais si tu l'avais pas relevé, c'était pas grave. » Et si t'as juste rigolé et que t'as juste passé un bon moment, ça me va très bien, mais... J'aime bien me dire que les gens prennent ce qu'ils ont à prendre et que chacun se fait son interprétation. Comment je l'ai bossé? Sinon, bah, j'ai beaucoup découpé. C'est vraiment des chansons, quoi. Je pense qu'en vrai, mon spectacle, c'est 12 sketchs de 6 minutes, tu vois, que j'ai vraiment isolé. Et parfois, je me faisais des soirées où l'objectif, c'était, j'ai 6 scènes, je vais faire 6 sketchs différents.
Ok.
Tu vois? Et je me disais, bah, c'est cool que...
Tu faisais un EP par soir.
Ouais, je me faisais une petite chanson différente par scène, quoi. Et je me disais, ça serait cool qu'elle soit toute au même niveau à la fin. Et après, j'ai posé tout ça sur une table et je me suis dit, bon, ben, le fil conducteur, c'est un peu ça. Après, tu vois, je sais pas si je ferais tous mes spectacles de cette façon parce que ça a pris beaucoup de temps et ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients.
C'est-à-dire ?
Bah, quand t'as... Quand tu bosses tes sketchs, on va dire, de manière isolée, tu peux te retrouver à un moment où t'as 10 sketchs, mais qui n'ont pas forcément de rapport entre eux, ou le rapport qu'ils ont entre eux, c'est pas celui que tu voulais dans ton spectacle, par exemple. Tu vois, moi, je sais qu'il y a encore des petits moments où tu dis, ok, c'est très drôle, mais en fait, le lien logique, il est pas forcément évident, tu vois. Moi, je me rassure en me disant, ok, ça c'est marrant, donc en fait, les gens vont pas le voir. Mais peut-être, je sais pas, est-ce qu'il faut partir de l'idée ou est-ce qu'il faut arriver à une idée, je sais pas, tu vois. Peut-être que si j'ai un prochain spectacle, je partirai d'un thème et je me dirai, ok, bah, je trouve toutes les blagues sur ce thème-là. Et ensuite, un peu ce qu'a fait, par exemple, tu vois, Guillermo, qui s'est dit, il me semble, hein, je veux pas mettre de trucs à sa place, mais la transmission... Et il a plein de choses sur la transmission, tu vois. Ou, je sais pas, est-ce qu'il a écrit des trucs et qu'après, il s'est dit, en fait, le fil rouge, c'est la transmission. Mais, non, j'ai vraiment beaucoup découpé, beaucoup répété.
Ouais, j'ai lu ça, que le matin, t'écris, l'après-midi, tu répètes. En tout cas,
ouais,
c'est ce que tu faisais.
Ça, ouais.
Moi, perso, c'est un truc que j'ai totalement tendance à oublier, la répétition. C'est juste, j'ai mon texte. Puis à aucun moment avant de le roder, je pense à ce que je vais faire, à comment je vais prononcer les trucs et tout. Toi, tu répètes vraiment, tu prends un micro et...
Ouais, en fait, je le faisais beaucoup. Maintenant, tu vois, ça a un peu changé parce que je me connais un peu mieux. Mais avant, j'écrivais le matin. Je retapais à l'ordi ce que j'avais écrit à la main, parce que j'écris à la main. Et donc déjà, il y avait une première passoire. Donc j'enlevais ce que je trouvais pas cool. Et ensuite, je le remettais au propre. Je l'apprenais plus ou moins par cœur dans l'après-midi, parce que je suis littéralement incapable de monter sur scène si j'ai pas appris mon truc par cœur. Mmh. Et le soir, je l'essayais. Et en fait, j'ai construit pas mal de trucs comme ça. Mais tu vois, ça, c'est une énorme contrainte. Déjà, de retaper à l'ordi un truc que t'as écrit à la main, c'est du temps. Bête et méchant, où t'es juste en train de recopier. Et apprendre par cœur, moi, je sais que je me torture le cerveau pour apprendre à la virgule près. Et en fait, tu te dis, pour vraiment 3 minutes, ça, je dépense une journée, tu vois. Et donc, je sais pas si à la longue, ça sera une façon de travailler que je vais garder. Mais j'aimerais bien, tu vois, arriver à avoir un truc en tête et plus ou moins le faire sur scène. Il y en a qui le font et je trouve ça extraordinaire, quoi. Mais c'est une façon de me rassurer, tu vois, de mettre le plus de cadre possible. Je me dis, ok, en tout cas, j'aurais tout fait pour que ça se passe bien.
Comment tu fais Moi, c'est un truc auquel je pense beaucoup. Là, je pense que ça va un peu mieux, mais quand les gens ils voient un sketch de toi, qui est un sketch qui fonctionne un peu et tout, ils partent du principe que toute ta personnalité, c'est ce sketch. Mm-hmm. Et donc, dès que tu essayes d'être un peu différent, d'être un peu plus complexe, un peu plus nuancé, ça peut vite faire peur, je trouve, de pas correspondre à ce qu'ils attendent de toi.
Ouais, voilà ce que tu veux dire. Il y a quelques fois où, très modestement et maladroitement sûrement, j'avais essayé de parler, de sortir un peu de ce que les gens avaient l'habitude de voir, et je me disais, waouh, en fait, en tout cas, moi, j'avais l'impression que les gens me regardaient en se disant, ok mec, mais vas-y, refais les trucs où tu te moques de toi et où tu parles des kebabs et de ton petit frère, parce que en fait, on s'en fout de que tu nous donnes ton point de vue sur le féminisme. Juste, reste dans la fonction que t'as. Je sais pas, après, je me dis que peut-être qu'on se dit ça dans nos têtes et que, en fait, t'en es presque persuadé avant de monter sur scène. Mais je pense aussi qu'il faut, j'ai l'impression, faire ce qui te plaît, tu vois. Si un jour, j'ai envie de plus du tout faire ça et de parler que de sujets engagés, bah si à la fin c'est marrant et que moi ça me plaît, c'est quand même, j'ai l'impression, la première contrainte que tu dois te mettre, quoi. Si tu commences à réfléchir pour les gens, bah il y a forcément des gens qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer, et donc en fait à la fin tu t'auras pas résolu le problème, quoi. Je pense que tant que tu te fais kiffer toi, c'est le plus important.
Mais il y a pas aussi un truc de genre s'auto-façonner comme les gens pensent que tu vas être, tu vois, de trucs où t'es tellement, c'est difficile de pas devenir un cliché de soi-même quand on est dans l'œil des gens, du public, entre guillemets, tu vois. C'est parce que même toi, tu finis par agir inconsciemment et automatiquement comme le ferait ton personnage, en fait, tu vois. Même s'il est super proche, moi, je trouve que c'est difficile de se sortir d'un truc qu'on attend de toi. Même dans la vie et tout, quoi.
Ouais, mais je trouve que c'est aussi excitant d'aller vers un truc qu'on n'attend pas de toi.
Toi, tu te mets beaucoup de contraintes toi-même ou...
Dans le travail ?
Ouais.
Par exemple ?
Mais par exemple, de choses que tu t'interdis de faire ou quoi, sur scène ou dans écriture, parce que tu te dis, ouais, c'est pas encore ma place ou c'est pas...
Ouais, un peu. Franchement, si... Mais après, c'est des contraintes que je me mets... que je me mettrais dans la vie aussi. Genre. Tu vois, genre me moquer de quelqu'un, par exemple, je le fais pas dans la vie. Donc je vois pas pourquoi je le ferais sur scène. Même si au début... Je t'avais dit, sur scène, tu peux un peu faire ce que tu veux. Je trouve qu'il faut quand même que ça fasse sens avec ce que t'es au fond de toi. Et ouais, il y a souvent des trucs... tu vois, si c'est des blagues gratuites, méchantes, et qui ne sont pas du tout ce que je pense, ou si c'est pour essayer de montrer aux gens une facette de moi qu'en fait, j'ai pas du tout, je vois pas l'intérêt, tu vois.
Okay.
Tu vois, c'est un peu ce que tu disais sur France Inter. Au tout début, je m'étais dit, France Inter, il faut que je sois intelligent dans ce que je raconte. Et en fait, tu te dis, mais si c'est pas moi, ça peut marcher 2 semaines, mais les gens, ils vont se rendre compte que je suis pas intelligent et que je m'y connais pas en géopolitique. Donc, juste, déjà, essayons de bien faire ce que on sait faire.
De toute façon, il t'a engagé pour une raison de base.
Oui,
c'est parce
qu'ils
aimaient ce que tu faisais.
Oui, tu vois, exactement. Après, en vrai, je trouve que ce qui est rassurant, c'est que nous, c'est quand même, t'as quand même un résultat binaire très instantanément, quoi. Soit ça marche, soit ça marche pas. Et si ça marche pas 5 fois, c'est que, en fait, c'était pas la bonne façon d'arriver à ton idée. Mais, Et surtout, il y a tellement d'offres que, tu vois, moi, je me dis, parfois, j'ai la frustration de rien dénoncer sur la société. Et après, je me dis, bah, y a plein de gens qui le font très bien. Donc, peut-être que moi, ce serait cool que je reste dans ma fonction de divertir purement et simplement les gens, quoi.
Et pour toi, c'est quoi est-ce qu'il y a quand même une idée que tu essayes de faire passer avec le spectacle?
Oui. En fait, je peux pas te dire non parce que à la fin, j'ai, sans spoiler, j'ai quand même des petites graines que je plante tout le spectacle. J'ai l'impression, hein, modestement, enfin, en tout cas, moi, j'ai essayé de faire ça. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai l'impression que je mets des petites graines et qu'à la fin, ça fait un petit arbre et que j'explique pourquoi il y a cet arbre-là. Mais encore une fois, ouais, si tu sors du spectacle en te disant juste c'était super drôle, je suis déjà très content. Si en plus tu sors de là en disant j'ai beaucoup ri et en plus il m'a un peu fait réfléchir sur plein de choses et que t'as pris, tu vois, sur n'importe quel sujet, que t'as pris un petit truc, ça me va très bien. Mais c'est, il y a aucun, je crois que c'est prosélytisme le mot, quand t'essayes de...
Je n'en ai pas la moindre idée.
Je crois que c'est ça, ouais.
Peut-être.
Quand t'essayes de convaincre des gens d'un truc.
J'ai jamais su ce que ça voulait dire. J'ai déjà regardé plein de fois et j'ai oublié.
Ouais, non, je crois que c'est ça. Hein.
C'est possible.
Oui, prosélytisme, c'est quand... Oui, bon. Tu vois, là, je me rends compte que je suis pas intelligent quand je dis des trucs comme ça. Mais en tout cas, non, j'essaye pas du tout. Et dès que j'ai l'impression de... C'est horrible, mais il y a plein de moments où j'ai pas de blague et où j'ai vraiment l'impression de me dire « Mais mec, t'as 26 ans, qu'est-ce que tu vas apprendre aux gens ?» Et en fait, bah, tu peux avoir des trucs à apprendre aux gens, tu peux avoir des points de vue. Ça, j'ai mis hyper longtemps à comprendre que je pouvais avoir des points de vue et en parler sur scène.
Et qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ça ?
Bah, c'est que j'ai 26 ans, j'ai grandi comme tout le monde, il m'est arrivé des trucs comme tout le monde, et donc, au même titre qu'il y a des gens qui ont des points de vue, j'ai le droit d'en avoir un, et même si je pense ne pas en avoir un, en fait, j'en ai forcément un, tu vois. T'as forcément des petits avis sur plein de trucs, des petites convictions, des petites lignes de conduite. Après, c'est comment tu les exprimes sur scène, tu vois, mais vraiment... Et c'est parce que je pense que j'ai grandi avec des trucs comme ça, mais moi, si déjà j'arrive à proposer un truc qui est juste hyper rigolo, et même le mot rigolo, il est fait presque enfantin, tu vois. Mais si tu sors du spectacle en disant « c'est ouf, il m'a fait oublier tous mes soucis pendant une heure et quart et j'ai vachement rigolé », eh ben déjà, c'est cool. Si ensuite tu te fais une deuxième lecture de « tiens, qu'est-ce que c'est que la différence et c'est pas grave d'être différent et tout », qui est un peu le message entre guillemets du spectacle, c'est encore mieux, tu vois, et ça me touche d'autant plus. Mais en vrai, moi j'aime bien me dire que c'est des blagues, quoi.
J'ai l'impression que c'est un peu un truc de notre génération, ça. J'ai l'impression que, parce que moi, mon spectacle, c'est à aucun moment, je le dis directement, mais c'est un peu l'idée aussi de. Il y a plein de moments où tu vas pas être à la place où tu penses que tu dois être et tout, mais c'est ok. Et j'ai l'impression que c'est assez générationnel. On s'est comme tous rendu compte en même temps que, et on a osé le dire surtout, qu'on se sentait pas à notre place, nulle part. Et si tu penses, c'est un truc de génération, c'est un truc de stand-up, c'est.
Bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais je pense que tu montes pas sur scène pour dire que ça va. Sinon.
C'est vite long, quoi.
Bah oui, et tu trouves. C'est... En général, tu trouves. Le comique vient. J'avais vu un truc, c'était comique égale...
Tragédie plus temps.
Tragédie plus temps, exactement. Donc ouais, je pense qu'il y a forcément déjà le postulat et il y a quelque chose qui me dérange. Donc je vais vous en parler. Et en fait, ça me dérange, mais j'essaie de vous montrer que c'est aussi marrant. Je sais pas si c'est un truc... Tu penses que c'est plus assumé dans notre génération de dire que ça va pas ?
Ouais, je pense qu'en fait, on commence à se rendre compte qu'on est tous paumés exactement de la même façon. Et qu'on... Genre, avant, je pense que les gens, ils faisaient plus semblant d'avoir une place, d'être sûr et tout, et que maintenant, on est tous en train de se regarder en mode « Non, mais depuis le début, je suis une grosse mytho et je sais pas ce que je fais.
Ouais, » ouais. Bah c'est, je pense que c'est justement peut-être parce qu'on a bénéficié de gens avant qui se sont pas remis en question à ce niveau-là, tu vois. Et qu'il y a un moment où tu dis, bon, bah, faut arrêter de montrer que ça va et que voilà, juste assumons le fait qu'on a tous nos petits soucis, que ça va pas et discutons-en. Moi, je trouve que c'est hyper cool, tu vois, de se dire que il y a des choses qui changent et qui avancent parce que on se rend compte qu'il y a parfois des trucs à retravailler ou à remettre un peu en question, tu vois. Moi, c'est tout bête, hein, mais encore une fois, je m'y connais très très peu dessus, mais j'ai commencé à lire quelques trucs sur l'écologie ou le féminisme, tu vois. Et en fait, tant que tu lis pas des trucs qui te font comprendre que ça va pas, tu peux te dire que en fait tout va bien. Mais c'est cool aussi, je trouve, de te rendre compte qu'il y a des choses qui méritent d'être changées et qu'il y a des gens qui font avancer ça et qu'en fait c'est pas parce qu'il y a des trucs qui sont établis que ça vaut pas le coup de les faire changer, de les modifier, tu vois. Moi, il y a plein de questions avant que je me posais pas parce que je me disais, bah, c'est comme ça. Et en fait, quand tu t'intéresses un peu, tu dis, oui, c'est comme ça, mais c'est pas parce que c'est comme ça qu'il faut pas que ça change, quoi.
Qu'est-ce qui, toi, t'a apporté ton spectacle ?
De l'argent, vraiment. Non, pas du tout.
Putain, tu sais que j'ai checké des trucs sur toi hier, des interviews et tout, et il y a un site où c'est genre combien gagne Paul Mirabel par mois, à combien est estimée sa fortune et tout. Et ils font ça avec les stars et t'es dessus.
Ah ouais? Mais je crois que moi j'étais déjà tombé dessus et c'est totalement un faux site. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est
Ah oui, c'est un truc comme quel signe astro de votre star préférée, enfin un truc.
Oui, mais ça tu peux le vérifier. Là, c'est
oui.
Genre
Ah oui, là
ils mettent un chiffre complètement au hasard sur tous les gens un peu. Mais je crois que je vois ce site et j'avais vu, je crois, pour Nagui. Qu'est-ce que ça m'a apporté en vrai un sentiment d'accomplissement, tu vois, de se dire bon j'ai fait ça dans la vie jusqu'à présent, c'est peut-être pas grand-chose, mais bon, j'ai eu un spectacle d'une heure et quart. Donc, tu vois, parfois que je suis tout seul chez moi, un peu triste, je me dis, en vrai, je me revois il y a très longtemps à la Fnac, dans le rayon DVD humour, à me dire, waouh, il y a un mec qui a une heure et quart de lui. Et là, bon, on l'a pas capté, mais je sais que j'ai mon spectacle, tu vois. Tu peux venir me voir. Je peux t'inviter, te dire, bah, viens voir mon spectacle et j'ai un spectacle. Donc, c'est un sentiment d'accomplissement hyper fort parce que c'était vraiment mon but depuis tout petit, de me dire, j'ai un spectacle à moi. Et surtout, c'est tellement pas évident, tu vois, enfin, ça met tellement de temps à construire que une fois que t'es au bout de ce truc, tu dis, bon, bah, c'est bon, on l'a fait, quoi, c'était faisable. Et ça m'a apporté, oui, un but dans la vie et plein de trucs, des rencontres. Des remises en question, des façons de penser que j'avais pas avant. Ça vraiment, je trouve que c'est la pierre angulaire du fait que j'aille bien. J'aurais du mal à aller bien si mon spectacle n'allait pas bien.
Ok. Et est-ce que du coup tu bases un peu ton estime de toi sur le fait qu'il y ait des gens ou pas dans la salle?
Non.
Non, ok.
Non, parce que tu peux faire un truc. Il y a plein de gens que je trouve hyper marrants qui jouent devant très peu de personnes. Et il y a des gens que je trouve beaucoup moins marrants qui font des grandes salles, tu vois. Donc c'est tellement un truc qui se maîtrise pas que ça veut rien dire. Moi, tant que j'ai l'impression que ce que je fais, c'est cool, déjà je suis heureux avec ça. Mais par exemple, tu vois, un soir où ça se où j'estime que c'était pas un bon spectacle, je peux pas, j'ai du mal à être content, tu vois, vraiment. Et j'ai eu des, tu vois, des moments où sur scène c'était pas ça, et c'était impossible que ça aille bien. En fait, ça prend trop de place dans ma vie pour que ce soit anecdotique, quoi, et que je me dise, bah vas-y, c'est pas grave, j'étais nul ce soir, c'est pas grave. En vrai, c'est ce qu'il faudrait, tu vois, parce que bon, par exemple, hier, à Toulouse, moi, j'ai trouvé que j'ai fait un mauvais spectacle. Les gens ont aimé. J'étais énervé. Mais je me dis, bon, allez, c'est pas grave, parce que factuellement, les gens ont aimé, mais j'ai quand même cette petite frustration et je suis, tu vois, je peux pas te dire ça va complètement à 100%, quoi.
Et t'arrives à lâcher, à pas penser au stand-up?
Eh ben, de plus en plus, mais ça date d'il y a un mois.
Ah ouais?
Ouais, ouais.
C'est pourquoi?
Plusieurs trucs, me rendre compte que, tu vois, bah, c'est tout bête, mais par exemple, la tournée, le fait de jouer le spectacle 3 jours par semaine et ensuite rentrer à Paris et, par exemple, parfois, de pas jouer et de le reprendre la semaine d'après et de se dire que j'ai pas joué pendant une semaine, ce qui avant n'arrivait pas, tu vois, vraiment avant. Ouais, je pense qu'il y a une année où sur 365 jours, j'ai dû jouer 350, tu vois.
Mm.
Et les 15 jours, c'est parce que j'étais pas là et que j'étais en vacances, tu vois.
Mm.
Et de me dire qu'en fait, bah, j'ai fait d'autres trucs cette semaine-là, quand entre deux dates de tournée, que j'ai fait d'autres choses, que je suis allé voir des films et qu'en fait, le spectacle était pas moins bien la semaine d'après. Je me dis que tu peux te nourrir de plein de choses et surtout qu'en vrai, il faut que ça ait un sens qu'on fait aussi, tu vois. Si mais j'ai un peu cette angoisse que j'avais pas avant, mais qui maintenant s'installe un peu. Je me dis, admettons, t'arrives à 35 ans, t'as fait 3 spectacles qui sont superbes, qui ont eu un grand succès et qui toi t'ont plu, mais t'es tout seul dans un immense appartement et en fait t'as tout sacrifié. Quel est l'intérêt, tu vois? Je pense que c'est bien d'être investi dans un truc qui te plaît. Et moi, je sais que je sacrifie encore énormément de choses dans ce but-là, mais aussi il faut se dire que il y a pas que ça, quoi. Faut être un minimum équilibré, j'ai l'impression.
C'est quoi tes ambitions? Genre là, tu dis ok, c'est bon, le spectacle, j'ai 1h15, c'est fait. Et c'est quoi le truc où tu dis putain, ça, ce serait ouf. À part faire un corpo pour le PSG.
Non, pour Montpellier, moi, ça serait. Je suis pour Montpellier.
Oui, non, pour la France. Pour moi, la France, c'est le PSG.
Ok. je t'avoue que j'ai déjà dépassé mes objectifs depuis tellement longtemps que là, j'ai quelques trucs où je me dis waouh, ça, c'est vraiment excitant, mais qu'en vrai, toutes mes journées sont hyper waouh depuis 3 ans. Tu vois? En fait, tout est fou. En fait, je me lève le matin, je me dis non, mais tout n'a aucun sens, tout le temps, hein, mais pour des trucs nuls, tu vois.
Genre?
Bah, genre, j'ai des footballeurs de Montpellier qui sont remplaçants, qui me connaissent, sachant que c'est des mecs avec qui je jouais à FIFA il y a 2 ans, et je me dis, mais c'est fou. En fait, ça n'a pas de sens. Je peux pas accepter l'idée qu'il y ait des footballeurs qui, moi, sont mes idoles de jeunesse, qui me connaissent, tu vois. Et donc, à partir de ce principe-là, tout est faux, genre. Ramener 1000 personnes qui viennent te voir à Rennes. Déjà, juste d'être à Rennes, c'est
déjà
genre
qu'il y ait 1000 personnes à Rennes.
Oui, déjà qu'il y ait 1000 personnes, déjà qu'il y ait Rennes. C'est fou. Non, mais de me dire que je suis pas chez moi, que je voyage dans un train un jour de semaine et que ça soit pour aller faire des blagues devant beaucoup de monde et que j'ai le petit déjeuner inclus. En fait, c'est, non, mais c'est genre, ça n'a pas de sens, quoi. C'est, tu vois, si c'était ça le max de l'excitation tous les jours, ce serait déjà très très bien. Après, il y a des trucs qui sont complètement disproportionnés. Tu vois, quand on me dit on fait un Olympia en fin d'année, oui, mais c'est genre ça. En fait, c'est beaucoup trop. C'est déjà tellement loin que j'arrive pas à me dire que c'est ouf. Tu vois, parfois, oui, je suis sous ma douche pendant 30 secondes, je me dis waouh, c'est ouf. Et après, je me dis mais en fait, tout est ouf. Donc oui, j'ai des ambitions. Je me suis fixé des caps sur certains trucs. Mais ça devient aussi beaucoup des angoisses, tu vois. Au même titre qu'au début, c'était monter sur scène. Après, ça a été avoir 5 minutes. Après, ça a été avoir 15 minutes. Après, ça a été avoir un bon spectacle. Maintenant que j'ai l'impression d'avoir un bon spectacle, c'est de me dire, OK, il faut que je repars de zéro. Il faut que j'ai un deuxième bon spectacle. Et donc, c'est des ambitions, mais c'est aussi beaucoup de craintes qui s'installent.
Mais là, t'as peur de quoi, genre, pour le deuxième?
J'ai encore plus peur que pour le premier, je t'avoue. Parce qu'en fait, au début, je sais pas comment tu l'as vécu, mais déjà, je suis pas au bout de ce premier spectacle, donc j'aimerais bien arriver le dernier jour et sortir de scène la dernière fois que je le joue et me dire, bon, allez, là, c'était un peu cool. Mais au début, vu que personne t'attend et que tu connais rien et que tu comprends rien,
donc t'as rien à perdre au début.
Ouais, tu sais même pas. Tu vois ça. Moi, je prenais vraiment tout au jour le jour en me disant, ben ok, je fais des blagues et un jour, ben tu sais pas comment, tu te retrouves sur scène et il y a des gens qui ont payé 25 euros pour venir te voir en spectacle, tu vois. Mais au début, c'est tellement, t'as tellement pas de méthode qu'en fait, tout est du kiff, quoi, parce que tu t'es fixé aucun objectif et tout arrive hyper spontanément, tu vois. Mais là, non, j'en ai tellement de me dire, ben, en vrai, si t'as un minimum d'esprit de compétition, tu te dis, il faut que le deuxième, il soit mieux que le premier. Sauf que quand le premier, t'as l'impression que c'est déjà le maximum de ce que tu peux faire, tu te dis, ben, comment je vais faire pour faire encore mieux que ça? Et surtout, tu te dis, il faut que je fasse encore mieux sans refaire ce que j'ai fait avant, ce que t'as pas sur un premier spectacle, par exemple. Parce que tu te dis, ben, je vais juste faire. Et vu que je pars de zéro, ben en fait, ce sera ça, quoi. Mmh. Mais là, tu vois, je sais qu'il y a des thèmes, par exemple, ou des façons de faire que je vais devoir... qu'en tout cas, moi, j'aimerais éviter. Mais donc, ça veut dire qu'il faut aller sur d'autres trucs. Est-ce que tu vas être bon sur d'autres trucs? Tu sais pas. Donc, c'est des angoisses ouais. Perpétuelles.
Mais genre, l'aspect... un des trucs un peu risqués avec l'autodérision, c'est que, ouais, ça marche pour un premier spectacle. Mmh. Mais après, tu peux plus dire, ouais, je suis une victime. Parce que t'as déjà win le game.
Bah,
c'est comme les rappeurs, tu vois, qui parlent la vie dans le ghetto et tout, puis quand ils ont 4 millions, ils peuvent plus.
Ouais, ouais. Non, c'est vrai. Après, tu vois, je pense que j'ai toujours eu de l'autodérision, dans le sens où il y a pas mal de gens au début, mais c'était plus violent que ça. C'était, ouais, mais lui, presque comme si j'étais allé dans un magasin d'humour et que j'avais dit, bon, attends, il y a humour noir, autodérision, humour absurde, moi je vais vous prendre... l'autodérision là en médium. Mmh. Mais en fait, genre, c'est ma nature, tu vois, j'ai toujours fait ça pour, je pense, plein de raisons qui s'expliqueraient par des années de psychanalyse. Et donc ça, je pense que je pourrais jamais l'enlever parce que c'est ma façon d'essayer de faire rire. Après, c'est vrai, oui. Par exemple, tu vois, là, dans le spectacle, il y a un petit côté, il y a toute une partie où je dis j'ai du mal avec les filles, ce qui était un... vraiment un gros problème il y a quelques années. Et en vrai, maintenant, ben, tu prends confiance et plein de raisons font que je comprends que quand tu vois cette partie du spectacle, tu te dis, ouais, là, t'exagères, genre. Et on est 1500 ce soir, me dis pas qu'il n'y a pas une fille qui potentiellement te trouve sympa, quoi. Mm. Et donc, j'entends qu'il y a des choses qui changent. Après, tu vois, faut arriver à se renouveler. C'est ça tout l'enjeu, hein, c'est de se dire bon ben ça je l'ai déjà raconté, ça les gens, ça c'est plus ma vie, tu vois. C'est vrai que si t'as 50 ans et que tu nous parles de, je sais pas, tu dis ouais c'est dur de vivre en banlieue et que t'habites plus en banlieue, ben on va plus te croire, tu vois. Donc après,
ou juste les gens qui ont commencé à faire de l'humour pour ados et puis ils ont 30 piges et ils font toujours des blagues de l'école, quoi.
Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. Mais après je pense qu'en vrai, encore une fois, les comedy clubs, c'est rassurant pour ça. Et en vrai, je pense que tu te poses chez toi et que tu regardes le plafond, tu sais si ce que tu fais, c'est ça le niveau ou pas, tu vois. Je pense que j'ai l'impression que c'est impossible d'avoir aussi peu de recul sur ton travail et de pas avoir l'impression que ce que tu fais, c'est pas bien. Dans ce qu'on fait, en tout cas, tu vois. Mmh. En fait, c'est tellement... tu peux un peu duper les gens et te duper toi-même, mais je pense qu'au fond de toi, tu t'arrives à savoir si quand même ce que tu fais, c'est cool. Et surtout, nous, encore une fois, il y a tellement un cadre qui est angoissant mais qui est rassurant, qui est bah, soit c'est marrant, soit ça l'est pas, tu vois. Si moi, il y a plein de fois où je jouais et t'as des mecs qui disaient « Ouais, mais moi, j'ai un tout nouveau truc sur... l'écologie, ça fait vachement réfléchir et tout. » Oui, mais quand tu montes sur scène, les gens ont pas rigolé. Moi, je monte sur scène et je te parle des limaces. Ça n'apporte rien à la société. Mais si c'est marrant, ben en vrai, tu vois, j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut retenir, quoi. Mmh. Je doute toujours.
Là, t'as commencé à jouer un peu dans les séries, dans des films et tout?
Oui, très rapidement. J'ai vraiment... deux lignes de dialogue et...
Dans Jaune et Gaulerie, t'en as quand même quelques-unes, non?
J'en ai quand même quatre, ouais. Mais, donc, ce qui est pas rien. Mais, non, ouais, très rapidement, très furtivement, quoi. Il y a vraiment des chaises qui ont plus de jours de tournage que moi dans ces films.
Je te vois recycler tes chroniques.
Oui, c'est une petite blague que j'avais faite dans une chronique, mais qui vient de ressurgir.
Mais c'est un truc vers lequel t'aimerais aller ?
J'aimerais aller au cinéma voir des films, ça toujours. Mm-hmm. Mais oui, après, pareil, je sais pas comment tu le vois, mais moi j'ai vraiment beaucoup plus l'impression d'être un auteur qui vient dire son texte qu'un comédien. Tu vois ? Mm-hmm. Genre...
Mais c'est juste deux métiers différents, en fait.
Ouais, mais t'as plein de gens qui te disent « Lui, il est super bon sur scène, il serait super bon au cinéma. » Je trouve que ce qu'on fait, il y a quand même une grosse part d'écriture, tu vois. Mmh.
Et... Puis, ouais, puis de toute façon, on joue nous-mêmes. Donc, à part grossir les traits...
Oui. J'aimerais bien, mais je sais que là, pour le coup, je pars de zéro. Enfin, pas de zéro, parce qu'on monte sur scène, donc forcément, en vrai, par définition, il y a quand même une petite performance de comédien. Mais je pars de 1, quoi. Tu vois par rapport à quelqu'un qui a fait 10 ans de conservatoire, qui a appris des textes par cœur, qui s'est pleuré sur commande et qui a lu l'intégrale de Racine, nous, on passe par la fenêtre, tu vois.
Mmh. Mais t'as fait du théâtre un peu ?
Un petit peu, mais je respecte tellement ce que c'est que j'aurais jamais la prétention de dire, parce que le spectacle a un peu fonctionné à un moment et que les gens te connaissent, de dire bah en vrai je peux prétendre à des gros trucs au cinéma, tu vois. Non, c'est au même titre que, je te fais la comparaison, mais quelqu'un qui serait connu sur les réseaux sociaux par exemple en faisant des TikTok, bah tu peux pas arriver et dire bah ok, tu peux faire l'Olympia par exemple parce que t'es connu.
Ouais, mais il y en a plein qui essayent en ce moment et qui se rendent compte au moment où ils sont sur scène que c'est pas le même métier.
Ouais, exactement. Bah je pense qu'il y a un peu ça du stand-up au cinéma. Mais j'aimerais bien essayer, totalement par curiosité et surtout pour pas m'enfermer dans un truc scolaire de, tu vois, mine de rien, j'ai pas envie que ce que j'aimais pas à l'école ressurgisse dans mon travail, tu vois. Si c'est toute la journée écrire des blagues et tous les soirs faire le même texte, au bout d'un moment j'ai pas envie de me dire que j'aime plus ça, tu vois. Donc c'est bien de s'aérer sur d'autres projets aussi, je trouve.
Ok. Et une dernière question, t'arrives, moi j'ai l'impression que là, faire 3-4 ans de blagues, ça m'a un peu paralysé à l'idée de faire un truc premier degré.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, genre tu peux pas regarder une chaise et juste regarder une chaise. Tu penses à des angles, tu dis cette chaise va venir dans ma chronique et tout.
Ouais. Alors déjà, quand je vois les trucs, en fait, à un moment j'étais vraiment. Bon, j'étais un peu darkos à ce moment-là, mais genre mes émotions n'avaient pas de valeur si elles pouvaient pas être transformées en blagues. Mais là, je parlais plus même dans quels que soient les projets qu'on te propose sur le côté et tout, faire un truc dans lequel il n'y a pas de blagues, il y a une sorte de truc de je ne me sens plus la légitimité de faire autre chose que ça, tu vois. Parce qu'un peu, s'enfermer soi-même dans un truc second degré, de jamais se prendre au sérieux et tout, alors qu'en vrai, y a plein de choses qui demandent de se prendre au sérieux, sinon tu arrives jamais au bout.
J'ai pas compris. La fin. Non, mais vu que c'est une question complexe, je préfère avant de te répondre.
En fait, tu vois, si on me demandait de, par exemple, au théâtre, quoi, de jouer un truc sérieux ou d'écrire un truc sérieux, je saurais pas, parce que je vais toujours vouloir mettre des blagues dedans.
Ah, ok.
Parce que sinon, j'ai l'impression de pas être légitime pour le faire.
Ok. C'était sérieux dans ce sens-là. Est-ce que j'ai du mal à faire ça, tu penses? Est-ce que j'aurais du mal à prendre un truc premier degré? Ok, chose que tu veux dire.
À te sentir légitime de le faire.
Oui. Bah, tu vois, même sur scène, il y a des moments qui sont des transitions où pendant 30 secondes, ça rit pas et je vais même pas jusqu'à je vous apprends la vie, tu vois. C'est vraiment 30 secondes où les gens ne rient pas et où juste je me présente presque. J'ai vraiment l'impression d'être hyper prétentieux et de faire une conférence TEDx sur un sujet hyper philosophique. Et donc, j'essaie de tout atténuer par l'humour, tu vois. Je sais pas, ça dépend du projet. Mais en tout cas, non, c'est sûr que là, pour l'instant, je préfère rester dans la comédie, tu vois. Et surtout, j'ai l'impression que je m'en suis toujours... j'ai toujours essayé de me débrouiller dans la vie ou de me sortir de situations techniques, tu vois, qui vont de un date avec une meuf à passer mon bac avec les blagues. Donc c'est pas maintenant que j'ai envie d'arrêter ça, tu vois. Et même, j'ai eu mon mémoire, je trouvais que la boucle était belle, mais j'ai eu un peu, j'ai validé un peu mon diplôme grâce aux blagues. Donc je me suis dit, bon, même un truc qui potentiellement de loin n'a aucun rapport avec l'humour, j'y suis arrivé par l'humour, donc je suis un peu content.
C'est-à-dire ?
Je passais mon mémoire et c'était une époque où je n'allais plus en cours parce que je faisais que jouer et que faire des blagues un peu partout. Et le jour de mon mémoire, la veille de mon mémoire, pardon, mon école m'appelle et me dit ce soir on fait un spectacle pour les gens qui intègrent l'école l'année prochaine. Est-ce que tu veux venir faire la première partie? Et je leur dis oui, mais j'ai mon mémoire demain, donc c'est un peu chaud. Et ils me disent, si tu viens faire, je sais pas si j'ai le droit de le raconter, mais en vrai, je suis un peu hors la loi, donc c'est parti, ça va être exposé ici maintenant. Ils me disent, si tu fais la première partie, on t'enlève le rattrapage de compta que t'as depuis 4 ans. Donc je dis évidemment que je viens à pied si vous voulez. Et donc je fais la première partie, il me saute une matière que j'arrivais pas à valider, et le lendemain je passe mon mémoire et le prof il voit que c'est pas ouf, tu vois, et que c'est cool mais que si on je maîtrise pas plus que ça. Et il me dit ouais, j'ai des collègues qui étaient là hier soir et qui ont bien aimé votre truc et tout, et moi je vous avoue que j'ose pas trop vous le dire, mais je vous écoutais un peu à la radio parce que j'étais dans un truc sur le Nova. Et là, je me dis, waouh, il y a une brèche qui s'ouvre,
ouais,
qui fait que je vais retourner sur ma zone de confort. Et là, je pars en, mais bien sûr, mais je vous offre des places quand vous voulez, monsieur. Et venez me voir en spectacle. Et oui, les chroniques et tout. Et je me dis, il faut surtout pas qu'on parle du mémoire. Il faut qu'ils se rendent compte dans 20 minutes que le temps est écoulé et qu'on a plus parlé des blagues. Et donc, grâce à ça, mémoire validée et scolarité terminée. Donc, je trouvais ça fou de me dire que les deux gros trucs importants de ma scolarité ont été gagnés et vaincus par des blagues. Je trouvais que ça bouclait bien la boucle, quoi.
Ouais. Ok, merci Paul.
Je t'en prie, merci. Et je doute toujours à la fin de ce podcast. Et bon courage pour ce soir. Parce qu'on fait...
Ah oui, on joue. On fait
des blagues dans un zénith à Toulouse.
Ça va,
Zénith. Ce qui est fou, tu vois, ça, pour revenir sur... Ça n'a aucun sens en vrai que là on soit dans une loge entre des chaises et des cintres juste avant de faire un zénith.
Ouais, mais toi tu en as déjà fait des zéniths. Tu fais toujours tout le temps devant plein de gens.
J'ai fait une fois ici, mais bon, en vrai ça n'a aucun sens quoi.
Non, mais oui, c'est
en vrai. Moi je me dis, normalement je suis censé venir voir Big Foley ici et payer 30 euros, tu vois. Je suis pas censé être sur scène faire des blagues, mais bon, la vie fait que tu sais pas comment tu te retrouves. Entre des chaises et des cintres à faire un podcast avant d'aller faire des blagues devant 5000 personnes. Donc merci pour l'invitation.
Merci à toi.
Merci beaucoup d'avoir écouté Les gens qui doutent. Pour suivre Paul Mirabel, ça se passe sur les réseaux et puis évidemment sur scène. Il tourne actuellement en France, en Belgique et en Suisse avec son spectacle Zèbre. Tous les liens sont dans la description. Et puis si cet épisode vous a plu, bonne nouvelle, vous en avez 50 autres à écouter avec en vrac Guillermo Guise, Marina Rollman, Kian Kojandi, Pomme, Panayotis Pasco, Fanny Herrero, Laura Felpin, Morgane Cadignan, Clément Viktorovitch, Cécile Coulon et plein d'autres. N'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, tout ça, à laisser des étoiles, des commentaires, ça aide vraiment super fort. Et puis vous pouvez même soutenir financièrement si vous le pouvez et le voulez via Acast ou Patreon, et cet argent sera évidemment utilisé pour payer les frais liés au podcast, pour nourrir mon chat et pour acheter de la drogue. Et évidemment, pour être tenu au courant de la suite, vous pouvez me suivre moi sur les réseaux @FannyRuet sur Facebook, Twitter, Instagram, surtout Instagram, c'est là que je poste le plus. Il y a des chroniques, des podcasts, des blagues qui sortent un peu tout le temps. Et puis bien sûr, rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau Gens qui doutent. Des bisous. Et puis comme d'habitude, ce podcast a été mixé par l'incroyable, le resplendissant Maxime Wathieu.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.